Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. C'est le cinquième épisode, hein?
Oui,
cinquième.
Ouais,
c'est bien, ça
et
fait cinq épisodes.
Et tu l'as commencé exactement comme le Gallicast, encore.
Oh, c'est vrai, cette fois-ci je l'ai fait.
Oui, oui, t'as fait cette bonjour, fois-ci. Bonjour.
C'est un réflexe. C'est un réflexe. Bref, je me gratte toujours la gorge quand j'enregistre. Aujourd'hui, on va parler d'une série télé britannique, sans blague.
Je t'aurais pas deviné, dis donc.
Waouh. On va parler d'une série humoristique très particulière que vous connaissez, à mon avis, forcément. Vous en avez déjà entendu parler, à mon avis.
Et puis, tout de même, maintenant, c'est sur Netflix, donc beaucoup de gens l'ont
déjà vu. Ah ouais, c'est vrai que c'est sur Netflix, oui.
Ouais, ouais.
Il s'agit du Monty Python Flying Circus. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Le prochain épisode sera sur Saturne 3. Et pendant ce temps-là, regardez des films et des séries.
À bientôt!
Comment décrire le Monty Python Flying Circus? Tu sais qu'honnêtement, des séries humoristiques, on en a eu, puisqu'on a, en France, on a Les Nuls, on a eu Les Inconnus qui ont fait ce type d'émission. En Belgique, il y a eu Les Nuls, apparemment.
Oui, et puis il y a eu Zygomaticorama, des trucs de ce genre, toutes les émissions de la RTBF que faisait, comment il s'appelait déjà, Stéphane Steyman. Et il y a eu pas mal de choses de ce genre aussi en Belgique.
Et même en Angleterre, c'était pas la première émission humoristique, puisque justement, on en parlera un peu plus tard, mais il y avait eu des shows comme
Atlas the 1948 Show,
ou Donut at Joe's sur 7, plus tard il y aura même Not the 9 o'clock news, je crois. Mais le Monty Python Flying Circus, je crois que c'est
le
une
plus emblématique.
Unique.
Oui, unique, oui.
Dans l'histoire de la télévision britannique. Quand on la regarde dans son intégralité.
Oui, parce qu'en fait, c'est le bouton random.
Ah, littéralement.
De l'humour.
On va commencer par le début, quand même. C'est une série qui a commencé en 1969, en octobre 69, avec notamment Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin. Dans un ordre, dans le désordre, en général. Ils n'apparaissent pas forcément dans cet ordre-là dans l'épisode.
Oui, ni tous, d'ailleurs. Pas forcément toujours tous.
C'est la c'est pas la première fois qu'ils participaient tous ensemble, puisque juste avant de faire le Flying Circus, ils avaient réalisé une espèce de téléfilm, fausse émission qui s'appelle How to Irritate People, donc comment irriter les gens, qui est très drôle. En fait, parler du Monty Python Flying Circus, c'est très difficile parce que c'est vraiment. Faut le voir pour comprendre. Est-ce que toi tu pourrais résumer l'émission?
Non.
C'est impossible.
Non.
Pour le coup, c'est
En
une sucée
gros,
sur le
nous
sketch.
avons toute une série de humoristes qui qui s'attribuent des rôles complètement random par épisode et qui font des sketchs complètement random par épisode. Et c'est voilà. En gros, c'est un gros délire entre gens ayant quand même un certain niveau d'études et ayant un humour très perché.
Oui,
Voilà.
c'est ça. En plus, c'est vrai. C'est que, en fait, c'est des gens qui sont issus de l'école,
Ah oui, il y a un
Oxford
groupe.
et
Oui,
Cambridge.
voilà, c'est des Oxbridge, quoi. La moitié, c'est d'Oxford, l'autre moitié, c'est de Cambridge.
Et honnêtement, c'est un humour qui paraît un peu bateau pour certains. Enfin, ça dépend vraiment sur quel épisode on tombe, mais c'est vrai que on a souvent l'image pour l'humour britannique de Benny Hill,
Benny Hill ou Mr Bean,
ou
d'ailleurs.
Mr Bean, et on a le Flying Circus qui parfois fait des trucs vraiment très bateau. Et très, je dirais, pas sale, mais tu vois, un peu.
Oui, mais disons que si on prend un seul sketch,
Oui.
si on prend un seul sketch tout seul, on peut se dire, ouais, ok, mais c'est en fait, il faut voir un épisode entier ou même une saison ou l'entièreté de la série pour se rendre compte que c'est juste. Il y a tellement rien qui a rien à voir. Il y a des trucs qui font des références d'une fois à l'autre ou il y a un fil conducteur parfois par épisode, parfois pas du tout. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la série. Il faut pas aller regarder un sketch comme ça. Bon, à la limite, s'il fallait recommander deux, trois sketchs à aller voir comme ça, peut-être le sketch du perroquet.
Oui.
Mais à part ça, c'est difficile de regarder un extrait et c'est tout. Parce qu'on n'a pas une bonne représentation de l'esprit Monty Python, quoi.
Alors, je viens de découvrir qu'apparemment, la série a été diffusée dans les années 70 sur la RTB,
Oui, avec probablement un doublage d'ailleurs.
sous le titre Absurde n'est-il pas?
Oui, mais ça ne m'étonne pas spécialement parce qu'effectivement, tous les humoristes de cette époque-là ont gardé ce côté un peu absurde. Quand je parlais de Stéphane Stéman tantôt, c'était effectivement le même style d'humour qu'on peut voir. Je me souviens d'une émission, enfin, je me souviens, la 3 fait souvent des rediffusions des émissions de Stéman, notamment. Bon week-end, je ne sais plus, oui c'est Bon week-end ou Zygomaticorama ou ce genre de choses. Et je me souviens d'un épisode où pendant les années 70, il y a les travaux à la place de la Bourse à Bruxelles. Il avait pris un chronomètre, c'était la construction du métro, et il avait essayé de traverser juste la place de la Bourse. Tu sais le truc qui prend deux
Oui,
secondes, ça lui a
normalement.
pris 25 minutes.
Oh putain.
Et ce qu'il y a, c'est qu'on le filmait et il tombe. C'était. Maintenant que j'y pense, c'était très Python dans sa manière de filmer et tout ça. Donc ça me semble pas si improbable qu'il y ait une diffusion dans les années 70 parce que l'humour belge de l'époque est quand même assez proche de cet humour-là. Peut-être pas aussi bon et aussi raffiné, quoique j'ai toujours beaucoup aimé Stéphane Stéman,
Oui,
mais.
de ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est assez drôle.
Oui, c'est plus raffiné que beaucoup d'humoristes actuels en tout cas. Mais voilà quoi, c'est pas ça me semble pas improbable. Il y a une diffusion française aussi, mais beaucoup plus tardive, hein, dans
Mais
les années 90, je pense.
je pense sous-titré uniquement.
Oui, bah Arte, ça peut certainement
Non, non, Parte,
sous-titrer.
apparemment,
Ah,
elle
bah
a
Arte!
été diffusée à partir de 91 sur la 3. Mais à mon
France
avis,
3?
oui,
Ok.
France
Ouais,
3, oui.
parce qu'il y a la 3 belge, donc c'est
Enfin,
pas sûr.
c'était FR3, hein,
Ok.
à cette époque-là. Hein. Et oui, en fait, la première fois que j'ai vu le Flying Circus, c'était sur Arte, ou Paris Première, je crois. Non, c'était sur une diffusion Paris Première. Ils avaient sélectionné plusieurs épisodes et ils n'avaient pas diffusé l'intégralité de la série. Et j'étais plié en deux à chaque épisode. C'est-à-dire que je croyais pas ce que je voyais.
Oui, moi je l'ai découvert avec toi, donc je les
Ouais.
ai pas découverts à l'époque. Bon, déjà en 70, j'étais pas née, hein.
Moi non plus.
Oui, donc je n'aurais pas pu les découvrir à la RTBF.
Alors, revenons un peu sur la genèse, disons, de l'émission. Juste avant, quelques années avant, John Cleese et Graham Chapman jouaient dans une autre équipe, une autre troupe de comiques, en fait, pour l'émission Atlas 1948 Show. On
Oui.
en parlera dans un prochain épisode.
On a fort hâte parce
On
qu'on
a
est en
fort hâte
train de la
parce qu'elle est vraiment
regarder.
très bonne. Parce qu'il y a la lovely Amy McDonald déjà dedans, donc on a très bien
Hello, I'm
envie
the lovely Amy McDonald.
on a envie d'en parler. Et le reste de l'équipe, en fait, c'était Terry Jones, Michael Palin et
Idol aussi, non?
Eric Idle, mais il y avait aussi Terry Gilliam, en fait,
Oui.
qui avait commencé à participer dans une autre émission qui s'appelait Do Not Adjust sur 7, qui est, ça dit, était une émission humoristique, mais qui invitait en fait des groupes de musique.
Oui.
Donc ça avait plus la structure d'émission classique, alors que Atlas 1948 Show,
C'est déjà le
c'est
bouton
un espèce,
random.
voilà, c'est déjà un proto Flying Circus,
Oui.
parce qu'il y a déjà une succession de sketchs vraiment sans transition. La seule transition étant Amy McDonald, la présentatrice, qui
Oui,
fait
qui est une excellente
voilà.
transition d'ailleurs.
Alors que le Flying Circus, en fait, c'est l'évolution de ces deux émissions, en fait, au final, beaucoup plus Atlast, mais avec les transitions qui sont extrêmement bien travaillées.
Oui.
Parce que déjà le sketch, en soi, si on prend n'importe quel épisode, on part d'un sketch qui est drôle en soi, mais qui n'a pas
Oui.
forcément de chute.
Non.
La chute, c'est la transition vers le deuxième sketch.
Oui.
Et c'est ça qui rend en fait l'émission géniale. C'est cette succession sketch et de transition qui rend vraiment imprévu le sketch. Tu sais
Oui.
pas comment ça va finir, tu sais pas comment ça va commencer, tu...
Le titre belge donne bien l'idée. Absurde n'est-il
Ah
pas?
oui,
C'est
finalement, oui,
vraiment très
ça...
absurde.
Parce que en fait, c'est vraiment la... On a revu un épisode là juste avant d'enregistrer pour se remettre dans le bain, pour se dire, tiens, ça. Et d'ailleurs, on avait vu pas mal d'épisodes aussi quand on avait été à Londres au BFI,
Oui, on
qui
a
avait diffusé
24
l'intégrale,
heures. Ils avaient
24
fait
heures.
pendant 24 heures, ils avaient diffusé toutes les saisons du
Les
Monty.
4, il y en a
Ouais.
4.
Et on avait pris un billet. C'était des billets par soit on prenait tout. Bon, voilà.
On n'aurait
On
pas pu
avait
faire.
pris. Non, on n'aurait pas pu le faire parce que bon, fallait qu'on passe un peu notre temps à Londres aussi, hein, mais on avait pris pour la soirée du
C'était une heure,
samedi.
je crois. Hein. De toute
Non,
façon,
c'était 6
Ah,
heures.
c'était
C'était
6 heures.
un billet de 6 heures, mais on est resté deux bonnes heures, je pense.
Ouais, je pense,
Parce
ouais.
qu'à un moment donné, bon.
Ouais, 6 heures, wow, je chaturais un peu, moi, quand même. Hein.
On
Puis j'ai quand même...
est déjà resté deux bonnes heures.
Ouais,
Hein.
c'est vrai. Ça, c'était sympa, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Ben, c'était justement un de ces épisodes-là qu'on avait revu.
Oui, d'ailleurs, c'était... Mais je sais pas si c'était celui-là qu'on avait vu.
Ben, en tout cas, je me
Ça
souviens
fait
qu'on avait
partie de la
vu le
saison
Buzz
2.
Aldrin Show.
Ouais.
Et je suis à peu près sûre qu'effectivement, celui-là, on l'avait
Celui-là, on
vu.
l'avait peut-être vu. Quatre saisons complètement différentes les unes des autres.
Oui, surtout la dernière. La
Surtout la
dernière est
dernière,
très
puisque
différente.
John Cleese en avait un peu marre, en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même une troupe de six artistes, oui, qui s'entendaient pas vraiment ensemble.
Non.
Ils s'entendaient de manière professionnelle, mais... Au fur et à mesure, il y a eu des mésententes qui se sont créées. D'ailleurs, John Cleese est parti après la quatrième saison.
Oui.
Après la quatrième saison, ils ont quand même décidé de réaliser leur premier film, c'est-à-dire Monty Python Holy Grail, ou Sacré Graal en français, qui s'est très très mal placé comme tournage. Ça a été une véritable catastrophe parce qu'il était réalisé par Terry Jones et Terry Gilliam simultanément.
Oui.
Et c'était la pire des idées parce que les deux n'ont pas du tout la même façon de réaliser. Surtout
Ouais.
Terry Gilliam, qu'on connaît surtout maintenant pour avoir réalisé Brasil,
Oui.
le dernier film Don Quichotte qu'il a
Oui.
finalement réalisé, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs.
Je ne sais pas,
L'homme de la
mais non,
mancha,
non,
non.
ça c'est Jacques Brel, ça, chérie.
Ah oui.
Mais faudrait
Enfin,
une fois qu'on le voit d'ailleurs.
oui, Terry Gilliam a réalisé beaucoup de films, mais en tout cas, Sacré Graal a été vraiment une mauvaise expérience pour eux. N'empêche qu'ils ont quand même décidé de réaliser un deuxième film suite au succès qui est à mon avis leur meilleur puisqu'il s'agit de Life of Brian,
La vie de Brian.
David Bryan, qui est financé en grande partie par un des Beatles,
Oui, par George
par
Harrison,
George Harrison,
lui-même.
qui a toujours dit qu'il a payé la place de cinéma la plus chère du monde.
C'est vrai, il voulait voir ce film,
Il voulait voir
en
ce
gros.
film, c'est tout. Et leur dernier film, qui est Le sens de la vie, qui est peut-être le plus difficile pour les néophytes, je dirais.
Oui.
Ce qu'il est très spécial pourtant, c'est en termes de sketch et de profondeur d'écriture, c'est probablement leur meilleur avec la vie
Oui.
de Brian. Mais il n'est pas aussi peaufiné que la vie de Brian, donc il a quelques lenteurs, quelques longueurs et un petit côté qui le rend peut-être désagréable à certains moments.
Oui.
notamment un sketch.
Oui, je peux confirmer, effectivement, c'est pas mon visionnage préféré de tout ce que les Monty Python ont fait.
Pourtant, moi, j'adore, en fait, sur beaucoup de choses.
Mais y a beaucoup de sketchs que j'aime beaucoup, notamment le sketch de la grande famille très très nombreuse,
oui.
qui est assez extraordinaire.
Et Whisper Miss Secret.
Oui, voilà. mais c'est pas du tout mon plus gros trip dans ce que les Monty Python ont fait. Je préfère vraiment La vie de Brian.
Juste avant Sacré Graal, ils avaient quand même réalisé un film, donc j'ai oublié, qui s'agit en français, c'est la première folie de Monty Python, je crois.
Oui, mais c'est des sketchs aussi.
En fait, c'est un best-of de sketchs retournés pour l'occasion, principalement pour le marché américain, je pense.
Il y a notamment le sketch du perroquet qui se
voilà.
retrouve,
voilà, lui, c'est le sketch ultime.
Oui.
Ils ont fait aussi beaucoup de spectacles en live, notamment le dernier en date qu'ils ont fait, qui était... comment il s'appelait déjà, merde, je sais pas, tu l'as pas vu encore, il faut qu'on le regarde parce qu'il est vraiment
c'était,
excellent.
C'était 5 to...
Non, ça c'était le sous-titre, c'était One Down, 5 to Go.
Oui, One Down, 5 to Go.
Parce que Graham Chapman est décédé au début des années 90, je crois.
Oui, ils ont même amené ses cendres sur la scène à un moment donné.
Ça c'était dans une émission de télé. Oui, c'est quand ils se réunissent. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, Terry Jones est décédé l'année dernière.
Oui.
Lui, il était atteint d'Alzheimer, enfin d'une forme d'Alzheimer en tout cas, et il est décédé l'année dernière, malheureusement. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que maintenant ils sont plus que 4.
Oui,
John Cleese est toujours vivant d'ailleurs,
et toujours un gros connard d'ailleurs.
C'est pas c'est... Oui, c'est un... en fait, en oui. soi, je pense qu'il a un sacré, il a un sale caractère.
Oh, oui.
Honnêtement, quand je le vois en interview et quand je le vois dans.
Je l'aime bien, mais quel sale caractère! Ouais, c'est ça, le fait que je dise que c'est un gros connard, c'est pas pour ça que je ne l'aime pas. Hein. Mais c'est juste que, objectivement, c'est pas la personne la plus aimable du monde, quoi.
Terry Gilliam,
oui.
C'est surtout fait connaître dans la série Flying Circus pour ses animations, ses petits dessins animés qui servent de transition.
Oui, qui sont principalement des collages,
ouais.
Qui fonctionnent vraiment par collage de gravures anciennes, aussi ses dessins. Hein, il fait ses propres dessins et les mouvements de ses collages font les dessins animés.
Ouais, il a d'ailleurs un style très particulier, très à lui.
Oui, oui.
Ça, très reconnaissable. D'ailleurs, il avait déjà réalisé pour Donatello sur 7 quelques petits dessins animés, il n'y en a pas beaucoup. À préciser, tiens, d'ailleurs, puisque Atlas, The 1948 Show et Donatello sur 7, ce sont des séries qui ont souffert du temps, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont pas disponibles actuellement, alors
oui,
que Monty Python Flying Circus...
du temps et de la gestion catastrophique des
archives
de
la
BBC.
Alors que le Flying Circus est entièrement disponible, et ça c'est quand même bien.
Oui, grâce notamment aux Américains, je pense.
En fait, c'est alors de ce que je sais, c'est Terry Jones Terry Gilliam qui a racheté l'intégralité des masters, enfin qui les a récupérés, alors que les États-Unis allaient les détruire parce que la BBC ne les avait plus à ce moment-là déjà.
Ouais.
Et c'était diffusé aux États-Unis et en fait ça allait revenir pour être détruit. Et heureusement qu'il a fait ça, parce que sinon l'intégralité du Flying Circus aurait disparu.
Oui, alors qu'il a les masters, et du coup ils ont pu faire une très belle édition Blu-ray.
Ouais, on en parlera juste après.
Ouais.
La première saison est encore assez structurée quand on la regarde au niveau des sketchs.
Oui, il y a des fils conducteurs.
Il y a des fils conducteurs.
La deuxième aussi assez.
Voilà, on commence quand même à se détacher par certains moments. Et la saison 3 et la saison 4, ça part vraiment en roue libre.
Oui, oui, surtout la saison 4. Hein.
Surtout la saison 4, où là, c'est carrément un sketch global pour l'épisode, hein, quand même.
Oui, sur la fin de la saison 4, oui.
Mais qui est vraiment...
très décousu.
C'est très décousu et c'est totalement dingue, en fait, parfois. Notamment un épisode qui se passe dans un centre commercial
que j'adore. C'est le dernier, c'est le tout dernier, celui-là.
Pas tout dernier.
Dernier épisode. C'est un de mes préférés, d'ailleurs.
C'est qui est complètement dingue, mais il y a un sketch qui joue sur le fait que le gars, il veut acheter des fins. Non, c'est pas tout à fait le dernier,
non,
mais ça, il y a que 6 épisodes dans la saison,
ouais.
4 de toute façon. Et le gars, en fait, est à un comptoir, des comptoirs des fins d'épisodes.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Et donc, t'as le vendeur qui est en train de lui conseiller différentes fins d'épisodes.
Une fin romantique.
Une fin romantique, une fin avec un fondu au noir, une fin heureuse. Ah non, il serait pas intéressé par ça. ce qui fait que, honnêtement, si vous avez Netflix, foncez. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas profité de la dernière restauration donc, qui est sortie en Blu-ray.
Ouais,
c'est la version DVD qui est sur Netflix. Et elle n'est pas de top qualité.
Non.
Elle est qualité vidéo. Et il y a 2 ans, 2-3 ans maintenant, je crois.
Le quoi, le
Le
coffret?
coffret Blu-ray? Il est sorti en 2018, je crois.
Il est sorti, en fait, il devait sortir juste après notre voyage à Londres.
Oui.
Et on a voyagé à Londres en 2019, chérie.
Ah, en 2019,
Oui,
quand même.
parce que c'est notre dernier voyage avant la
Et
pandémie.
c'est parce que aussi on a mis du temps avant de l'acheter.
Oui.
Et donc, le coffret Blu-ray, en fait, a bénéficié d'une restauration complète à partir vraiment des sources qui ont été retrouvées, pas toutes, mais une grande partie, et notamment pour tous les dessins animés
Oui.
de Terry
Oh
Gilliam.
oui, l'image des dessins animés est tip-top,
Et il y a un
franchement.
gain de qualité incroyable.
Oui,
En
oui.
fait, c'est tu redécouvres la série en voyant cette édition Blu-ray par rapport à l'édition DVD classique. Et je suis pas mécontent d'avoir acheté ce coffret.
Oui, parce qu'il y a une série, bon, oui, c'est sympa, mais ça vaut peut-être pas à ce point le coup de faire la dépense quand on a déjà le DVD. Mais là, ça vaut vraiment le
Oui,
coup, la
surtout que je pensais
dépense.
que c'était juste un upscale au départ.
Oui, non, non, là, ça vaut vraiment le
Ça
coup.
va vraiment le coup.
C'est...
Alors, petite anecdote, tu sais que quand le coffret est sorti, il s'appelle The
Et
Norwegian Blu-ray Edition. Je me
beaucoup...
suis fait avoir, j'ai pris la blague au premier degré. En fait, je me suis dit, oh putain, elle est bien l'édition norvégienne.
Alors que moi, ça m'a semblé évident dès le début
Alors que c'est une
que
référence au sketch
c'est...
du perroquet, mais.
Oui, c'est ça.
Tu
Le
vois,
perroquet
départ.
est un norvégien bleu.
Voilà.
Parce qu'il y a des perroquets norvégiens bleus, effectivement.
Et je me rappelle quand j'ai vu, en fait j'ai vu passer ça sur Facebook en me disant ah tiens ça y est il y a les précommandes pour les coffrets Blu-ray puis ça c'était norvégienne. Je me suis dit ah oh, putain elle est bien l'édition norvégienne, vivement la version anglaise.
Et du coup, c'est la version multilingue, dans le sens, il n'y a que la VO, mais il y a des sous-titres de tout... Enfin, la plupart des
Il y a des
sous-titres...
sous-titres français.
Voilà, il y a des sous-titres français, c'est déjà ça.
Qui
Il y a
sont.
les néerlandais, je pense aussi.
Oui, des Français qui sont suffisamment bons pour comprendre.
Voilà. Je vous les conseille même parce que ça peut parfois être quand même très compliqué de comprendre certains
Surtout quand ils
jeux de
utilisent. Ouais.
mots anglo-anglais. Et comment... La traduction adapte suffisamment bien.
Oui.
C'est pas une traduction littérale, littérale à fond, mais c'est peut-être pas l'intérêt,
Ils font
justement.
parfois quelques petites erreurs, mais ça va encore.
Oui, ça
J'ai vu
reste.
pire.
Oui, voilà.
Sachant que les DVD étaient déjà traduits avec les sous-titres français.
Par exemple, l'une des pires sous-titrages que je connaisse de série, c'est Good Omens.
Ah bah oui.
La VF, vraiment nickel. La VO, c'est le top du top. Mais la VO-STFR, c'est une purge immonde.
Ouais, parce qu'il te retire toutes les blagues.
Oui, c'est...
Faut pas.
Faut pas.
Pour revenir à l'édition Blu-ray et par rapport à l'édition DVD, ils ont retiré une blague. Et moi qui me déçois
C'est
beaucoup.
vrai, c'est
Ils ont
vrai.
retiré une blague qui était présente sur les éditions DVD, qui était absolument géniale. Donc c'est une série qui a jamais été doublée, qui existe qu'en anglais. Et il y avait un
Peut-être
menu langue.
qu'il y avait... Ah oui, il y avait un menu lent qui était vide.
Le seul bouton qui était option... enfin, qui était fonctionnel en fait dans le menu langue des DVD,
C'était
c'était le
retour.
bouton retour.
Mais remarque, il y avait eu certainement une VF parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait eu que ça ait été en VO-STFR sur la télé belge.
Ça reste un
Mais
mystère.
c'est la VF a dû disparaître dans les limbes de la RTBF, tout comme d'ailleurs la VF de Lavender Castle a sans doute disparu dans les limbes de la RTBF, ou la VF de Le Grand Livre des Gnomes de Terry Pratchett, la
Oui,
version
aussi.
en stop motion, que j'ai vue enfant en VF. Il n'y en a strictement aucune trace, nulle part. Donc,
Faudrait demander à quelqu'un qui l'a vu parce que c'est possible parce que les séries anglaises étaient traduites, fut un temps.
oui.
Benny Hill était traduit.
Oh oui, il y a eu des... J'ai vu du Bénil quand j'étais plus
Mr. Bean
jeune.
était traduit.
Ouais,
Alors
j'ai vu
ça
du
peut paraître
Mr.
bizarre, mais il y avait un doubleur français pour Benny Hill, pour Bean.
Oui.
Il y avait pas.
Ah, Bénil, c'était Roger Carrel d'ailleurs.
Ah, Ben. Oui, Benny Hill, c'était Roger Carême, oui.
Ouais.
Fawlty Tower, qui était une série avec John Cleese, a un
Oui.
doublage français d'ailleurs. J'ai été très étonné de savoir que. Enfin, on l'a, il me semble. Non, on l'a pas, mais il y a une édition française de Fawlty Tower.
C'est pas celle qu'on a eue en main l'autre
Non, on a.
jour?
Oui, mais on a édition anglaise en fait, donc on s'en fout.
Genre, on a eu l'édition VF en main et on l'a pas prise?
Oui, parce que t'aimes pas Fawlty Tower.
Ouais, c'est vrai, j'aime pas Fawlty Towers. J'ai vraiment du mal avec. Mais c'est uniquement John Cleese et du coup, il est pas tempéré par tous les autres.
Ben, en fait, il joue un personnage qui est vraiment désagréable. Et bon,
Oui.
ça passe, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu bizarre. Donc, si vous voulez voir le Flying Circus, Netflix, puisqu'il y a des sous-titres français, DVD et Blu-ray, on conseille surtout le Blu-ray.
Ouais, le coffret est beau en plus.
Le coffret est
Mais
super beau,
fragile.
mais super fragile. Si vous le commandez par Amazon, attendez-vous en fait à ce qu'à l'intérieur il s'abîme. Parce qu'en fait, les quatre coffrets sont dans une boîte en carton et sont séparés juste par une petite lamelle de carton et elle a tendance à se casser parce que les coffrets sont beaucoup trop lourds. Parce que dans chaque coffret, il y a un livret qui revient sur la production intégrale de la saison.
Oui.
En détail. Je ne les ai pas tous lus d'ailleurs. Mais vraiment très très détaillé. D'ailleurs, les saisons sont disponibles à la vente en individuel. Vous pouvez les acheter par saison. Les films sont disponibles bien sûr en Blu-ray. Si vous avez l'occasion, sautez sur le coffret collector de l'édition anniversaire de Sacré Graal qui contient un petit château fort avec une petite catapulte et des petits
Je l'ai
animaux.
déjà vu à Fnac.
Non, il faut qu'on l'achète. Il contient les petits animaux que tu peux
Ouais.
balancer avec la petite catapulte.
Bah, on parlera de Sacré Graal peut-être une
On
autre
parlera de
fois.
Sacré Graal, oui, quand on aura acheté le coffret.
Ouais.
Mais en fait, c'est très difficile de parler de ce Flying Circus parce qu'il faut avoir vu, en fait, pour vraiment en parler, parce que c'est indescriptible.
Oui.
Raconter un sketch, ça rend pas drôle.
Non, certainement
Parce
pas.
qu'il y a, il y a des sketchs qui sont mythiques, comme le sketch du perroquet, mais on peut pas raconter, parce que ça rend pas drôle, quoi. Ou alors, faut le
Alors, c'est
refaire.
un mec qui rentre dans une animalerie. Il essaye d'acheter.
Non, il l'a
Et il
acheté,
a
il vient
acheté un
se plaindre.
perroquet et il vient se
Il
plaindre.
vient se plaindre parce que son perroquet bleu qu'il vient juste d'acheter, bah, il est mort.
Ah oui, il suce les pissenlits par la racine. Il a
Cessez
été, il n'est
d'exister.
plus, il a cessé d'exister. It's an ex-parrot.
Y a plein de sketchs qui sont absolument mythiques.
Ah, le sketch des fromages.
Oui, le sketch des fromages.
Ah.
C'est vraiment, en fait, c'est vraiment très différent. En fait, pour l'épisode 5, on a longtemps hésité. On voulait parler des Thunderbirds, mais on voulait inviter en fait un ami à nous qui saura mieux en parler que nous pour une fois. Donc oui, parce qu'il y aura peut-être des invités dans les prochains épisodes,
Maybe.
maybe. Et on l'a remplacé donc par le Flying Circus en se disant ouais, on connaît bien la série. Et puis là, on est en train d'enregistrer, on est en train de se dire qu'en fait, c'était la pire idée du monde parce qu'on
Oui,
peut on
on
peut
sait
rien
rien te
raconter.
raconter. Si on peut parler des thématiques qu'ils abordent. Alors,
Ouais.
ils aiment se moquer des nobles,
Oui.
un peu de la noblesse, les lords qui ont hérité
Oui,
de
parce
tout
qu'il
ce
y a un
qu'ils font.
épisode qui joue sur le fait que la reine risque de zapper sur la BBC à un moment.
Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'y pensais. Mais ils se moquent en général de la noblesse, ils se moquent des riches, ils se moquent des gens étroits d'esprit, ils se moquent un peu des idiots aussi, notamment le personnage, tu sais, celui qui a un mouchoir sur la tête.
Oui, je sais plus comment il s'appelle.
My brain hurts!
Oui.
De quoi il se moque? Il se moque de la BBC elle-même.
Oh, souvent de la
Souvent
BBC.
de la BBC elle-même, oui. Vas-y, à quoi tu penses?
Il se moque de tout.
Ouais, il se moque de tout, oui.
Mais c'est jamais méchant.
Non,
C'est
non.
pas de
La
l'humour méchant.
justice, beaucoup
Oui.
souvent de la justice aussi, il se moque.
Mais c'est jamais méchant, je trouve que c'est quand même un humeur qui suit. Par exemple, il y a un sketch, c'est un match de football avec tous les penseurs grecs.
Ah oui!
Enfin, du 20e, et aussi avec les penseurs du 20e, du 20e siècle,
Ou du
quoi.
19e,
Ou
ouais,
du
je sais plus.
19e. Avec Socrate.
Kant.
Il y a vraiment des sketchs de dingue, en fait. Vraiment. Alors, nous deux, on a un niveau de culture différent.
Oui.
On n'a pas les mêmes références, et en fait, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on ne rit pas de la même façon aux mêmes blagues.
Non.
Il y a certaines que tu comprends et que moi je comprends pas, et vice-versa.
C'est vrai.
C'est assez drôle. Si vous voulez voir quel est le niveau de culture de votre ami, eh ben, vous regardez un épisode de Monty Python et vous
C'est pas
remarquez.
niveau de culture, c'est plutôt comment étendue de la culture, non pas étendue, sujet de la culture. Par exemple, toi, t'as beaucoup plus de culture cinématographique que moi, et tu iras peut-être plus à une référence au cinéma ou à ou à d'autres choses. Moi, c'est vrai que, notamment pour la vie de Brian, je suis née dans une famille catholique, j'ai été au catéchisme, donc j'ai beaucoup plus de culture en tout ce qui concerne biblique, on va dire. Et j'ai pas rigolé du tout au même truc que toi sur la vie de Brian.
C'est vrai, c'est totalement vrai parce qu'il y avait des références que je n'avais pas sur la Bible.
Oui, et que je t'ai expliqué après, et du coup, ça t'a rendu ça encore plus drôle.
Bah oui. Pour finir, ils ont édité oui, également des vinyles. Et ça, j'aimerais parler des vinyles.
C'est vrai.
Parce qu'on en a ré récupéré quelques-uns. Et je crois que c'est pas.
J'ai des floppy disks,
Oui, il
notamment.
y a les
Pas des
floppy.
floppy, des. Comment on appelle ça? Des disques.
Flexidisc.
Flexidisc, voilà. Les floppy disks, ça n'a rien à voir, c'est des, disquettes. Des flexi.
Les comédiens de l'époque, la BBC, sortaient des vinyles de comédiens, enfin de sketch. C'était pas nouveau. Mais les Monty Python ont aussi...
Ouais, d'ailleurs, Atlas en a fait
aussi. Oui, il y en a quelques-uns, mais ils ont aussi élevé ça au niveau supérieur, en fait, avec certains.
Clairement.
Notamment leurs pochettes qui sont absolument géniales. Notamment une où c'est une pochette d'un album de Beethoven classique qui est raturé et où il y a marqué à la place The Monty Python Flying Circus Next Records, je crois.
Ouais.
Et d'ailleurs, Terry Jones, quand il avait reçu la pochette, il se baladait dans les bureaux et il la montrait. Et puis t'as tout le monde qui disait « Ah, elle est pas mal celle-là, mais elle est où la vraie pochette ?» C'est ça la blague, justement. C'est qu'il y a pas de pochette. Il y en a une qui s'appelle. L'album s'appelle Matching Tie and Unchief. Donc, littéralement, c'est en fait mouchoir de pochette de costume avec la cravate.
La cravate qui va avec.
Assortie.
Assortie, voilà.
L'idée, c'était de la vendre dans les boutiques de vêtements parce qu'en fait, l'album est contenu dans un fourreau et donc le fourreau, on voit. La cravate et la pochette, ouais. Et quand on ouvre le fourreau, en fait, ça révèle un dessin d'un homme qui est pendu.
Oui, la joie.
La joie. Et il y a un album, et je crois qu'on l'a.
Oui, on l'a.
C'est je crois que c'est Monty Python
chercher,
Final Records.
Je vais te le chercher, comme ça tu auras le titre complet.
Oui, le titre complet. Et en fait, celui-là, si je ne me trompe pas, il est très particulier parce qu'il n'y a aucune tracklist.
Non, il n'y a pas de tracklist du tout. C'est Monty Python's Previous Records.
Ah oui, c'est Monty Python's Previous Records. Il n'y a aucune tracklist de visible, même sur les albums, il n'y a pas de durée.
D'ailleurs, tu ne sais même pas te dire quelle est la face A et quelle est la face B.
Oui, mais je ne sais même pas. Et surtout, je crois que c'est celui-là, justement, qui a un double micro-sillon sur une des faces.
Exactement, sur les deux, je pense même.
Peut-être même sur les deux, ce qui fait qu'en fait, tu ne sais jamais sur quel sketch tu vas tomber en lisant ce vinyle.
Oui, et ce n'est pas spécialement facile de savoir comment c'est au fini le sketch, parce que ça se suit. Il n'y a quasiment pas de...
Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de blanc.
Il n'y a pas de blanc, et il y a deux sillons... très proche l'un de l'autre. D'ailleurs, il n'a pas le même état. Je pense qu'effectivement, il n'y a qu'une... Attends, je vais le regarder un petit peu parce que ça se voit. Mais les sillons sont extrêmement proches.
Ils sont extrêmement proches.
Et en fait, en fonction de où... Il y a des poussières dessus. En fonction de où tu poses ton diamant, ben, il se lance dans un des deux sillons. Du coup, si tu veux retrouver le sketch que tu veux faire... Par exemple, allez... Il y a tes potes qui sont là, tu te dis « Ah ouais, j'adore ce sketch des Monty Python, je vais vous faire écouter ce sketch. » Tu poses le vinyle, déjà tu dois réfléchir « Est-ce que je sais la face A et B ?» Mais j'ai dit une bêtise parce que ça se voit dans le run-out en fait, la face A et B.
Il y a quand même marqué.
Ouais, il y a moyen de voir ça sur le run-out.
Non, je suis sûr.
Et ici, regarde, ici, là il y a le code CAS, et là il y a A,
ah oui,
et
y a
de l'autre côté il y a B.
Oh bah faut le voir. Hein.
Ouais, faut vraiment le voir. Donc, tu peux plus ou moins savoir la face, tu peux te dire vaguement, oui, c'est à tel moment dans le disque, quitte à écouter la fin d'un autre sketch, mais ça reste très aléatoire vu qu'il n'y a pas de limite claire entre les plages, c'est une grande plage quoi, et il faut que tu tombes sur le bon sillon quand tu déposes, parce que tu as une chance sur deux de tomber sur un autre sketch.
Ce sont des albums à devenir fou.
Oui, exactement.
Et les sketchs sont très bons. C'est pas des trucs qui sont repris forcément du Flying Circus. C'est vraiment des trucs originaux.
C'est des inédits, oui.
Je crois d'ailleurs que si tu écoutes la BO en vinyle de, je sais plus si c'est Sacré Graal ou La Vie de Brian, l'un des deux, en fait.
Fais attention, chérie, tu remets mal là.
Bah, tu remettras.
Ok.
Il s'habille. Ça commence littéralement par l'avant-première en fait du film. Et quelqu'un qui interviewait les gens à l'extérieur, bien sûr, complètement fictif.
Ok.
Mais il n'y a quasiment pas la musique, en fait, dessus.
D'accord. Ça m'étonne
pas. Et c'est l'album du film.
Tu sais me passer... Merci.
En fait, littéralement, je crois que c'est l'album de la musique, de la bande-annonce du film, en fait. le Flying Circus et les Monty Python, de manière générale, c'est... Je crois que c'est le plus gros délire qu'il y ait eu à la télé anglaise. Mmh. Je ne vois pas beaucoup de comiques anglais qui ont réussi à atteindre leur niveau.
Oui. Après, des gros délires, il y en a eu. Il y a eu notamment, tu sais, cette série super chelou avec Marc Gatiss. Ah, je sais pas si toi tu l'as regardé, ça se passe à la campagne.
Ah, League of Gentlemen.
Oui, cette horreur.
The League of Gentlemen, je crois.
Voilà, c'est ça. Rien à voir avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais c'est un truc qui est très bizarre.
J'ai jamais vu.
C'est très. C'est pas du tout le même style d'humour. C'est limite. C'est beaucoup plus méchant, par contre. Voilà. Mais disons que comment. Les Monty Python tapaient sur tout le monde, mais jamais cruellement. Voilà, c'était rarement cruel, c'était même jamais spécialement cruel en fait. Et ça, c'est quelque chose à noter parce que il y a eu beaucoup, comment, l'humour anglais comme l'humour français peut être très cruel quand
Oui,
il
surtout
veut.
l'humour français.
C'est beaucoup plus l'humour français, oui.
C'est vrai que l'humour français, enfin, c'est normal, c'est un type d'humour, hein, après. Mais c'est vrai que Flying Circus, c'est vraiment un type d'humour à part entière, limite.
Voilà, c'est ça. Je le classerai même pas dans quoi que ce soit d'autre.
Ah, c'est un classum.
Voilà.
C'est un classum. Bon, je crois que c'est sur cette déception que nous allons finir ce podcast.
Déception, pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à en
Parce
parler
qu'on a.
réellement. Donc vous
Ouais.
n'avez absolument aucune idée de quoi raconte le Flying Circus.
Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne pas envie? Dites-nous, hein. N'hésitez pas, hein. Quatre saisons, quand même, vous avez de quoi regarder. Si vous avez envie de vous lancer, commencez peut-être par la saison 1 parce que c'est la plus facile à rentrer dedans. Parce que si vous commencez par la saison 4, vous allez être vite largué par certains épisodes. Il y en a vraiment des très très bizarres. Et on voit qu'ils étaient un peu à court d'idées aussi.
Oui. Il y a quelques fulgurances dans la saison 4, mais pas, mais
Pas
c'est
beaucoup par
pas
rapport au
beaucoup.
reste.
Voilà, c'est
Mais alors
ça.
que la saison 1, il y a des épisodes. Enfin. Et surtout, privilégiez l'édition Blu-ray si vous souhaitez les acheter. Parce que la restauration est vraiment impeccable.
On l'a déjà dit. Allez,
Voilà.
spam, spam, spam,
Spam, spam,
spam, spam,
spam.
spam.
J'aime pas le spam.
T'aimes pas le spam?
J'aime pas
Non.
le spam.
D'ailleurs, sais-tu que le spam, si on dit un spam pour un mauvais. Un, comment. C'est en rapport avec un sketch, hein, je vous le promets, mais bon, je vais pas vous raconter le sketch parce que, en gros, c'est des vikings dans un pub anglais qui veulent du spam. Spam, c'est de la viande en
En
conserve,
boîte,
hein.
oui.
Et si on appelle un email pénible.
Un
Un
spam.
spam, c'est parce qu'en fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient fait une énorme stock de spam pour leur armée. Et vu que la guerre s'est finie un poil plus rapidement que ce qu'ils avaient imaginé, en tout cas que ce que la société qui fait le spam avait imaginé, ils se sont retrouvés avec un stock immense et il a fallu l'écouler à fond et ils ont commencé à faire l'une des premières plus grande campagne de publicité toute boîte des États-Unis et les gens se sont retrouvés avec des publicités de spam mais tous les 5 jours, enfin c'était et ils ont
Constamment, quoi.
c'était constamment et ça les a fort marqués et du coup depuis ce temps-là on appelle un spam un courrier non sollicité publicitaire qui commence à casser les pieds.
C'était littéralement le cas.
Ouais, voilà, c'était littéralement le cas.
Ça, je trouve ça drôle, Dieu.
Oui, et donc il y a un sketch sur le spam dans les
Y en
Monty
a plus
Python.
d'un, d'ailleurs. Bref, rendez-vous au prochain épisode. On va parler d'un film cette fois-ci. On va parler de Saturne 3. Mais ce sera dans le prochain épisode. Allez, à bientôt!
À bientôt!